frères et sœurs, deux disciples font route, mais comme à rebours. Ils quittent Jérusalem et les voilà qui semblent retourner à leur vie ancienne. On parlerait volontiers de régression. Une partie de leur vie, de leurs rêves, semble désormais anéantie. Au fond, c'est comme une parenthèse dont il faudrait se débarrasser, se dépouiller, dont il faudrait faire le deuil. Mais alors faire le deuil, voudrait-il dire qu'il n'y a donc plus d'avenir, plus de projection dans le futur, que désormais leur vie va être cette existence un peu fantomatique dans un temps devenu triste, celui du souvenir, c'est-à-dire celui du passé. Oui, une partie de leur vie s'en est allée, car ils ont suivi ce Jésus. Ils l'ont écouté, ils ont fait partie de la communauté de ses disciples que sa parole, sa présence avait suscité. Et puis, quelle espérance les avait soulevés. Là, c'était leur rêve, nous qui pensions qu'il était le grand prophète. Qu'est-ce qui se cache, frères et sœurs, derrière cette expression « le grand prophète » Qu'avait-il donc compris, interprété des paroles de Jésus durant son existence terrestre et qui avait suscité du coup quel rêve peut-être humain, très humain, trop humain? La croix a brisé net tout cela. Pas de lendemain triomphant, pas de jour glorieux d'après, pas de victoire définitive du bien sur le mal, de grande fête des nations autour de la célébration triomphale de la justice. Ça nous fait toujours verser une larme à la fin des films, mais là, nous ne sommes pas dans un film, mais dans la réalité. Amertume, déception, tristesse. Une fois encore, frères et sœurs, comme pour Marie-Madeleine et pour Thomas dimanche dernier, la présence physique de Jésus n'avait pas rendu évidente pour ses disciples sa présence réelle à travers ses paroles, son esprit, sa communauté rassemblée, la vie que tout cela avait suscité. Il faut bel et bien que chacun des disciples passe par ce temps de deuil. Si Jésus ne les avait pas déçus au bout du compte, cela voudrait donc dire que nos disciples étaient parfaitement ajustés d'emblée à son enseignement, à ses gestes, à sa vie, au don de sa vie. Comment cela aurait-il été possible, frères et sœurs? Quiconque me dirait qu'il s'est toujours senti dans son existence parfaitement ajusté à Dieu et qu'il n'a jamais été déçu par sa présence, par son action, cet homme-là m'inquiéterait quand même profondément. Car les questions terribles demeurent. Pourquoi cet enfant que je chérissais est-il mort? Où est donc la justice en ce monde? En quoi les méchants sont-ils punis et les justes récompensés selon notre vision de la justice? La violence sera-t-elle donc sans fin alors qu'on nous dit que Dieu est amour? Les récits que nous méditons durant le temps pascal, ces récits, celui d'Emmaüs que nous entendons, ils sont essentiels. Croire en Dieu, c'est peut-être d'abord faire le deuil de Dieu. J'espère être compris. Faire le deuil du fatras de rêves plus ou moins infantiles que nous projetions sur ce mot « Dieu ». Suivre Dieu, c'est peut-être d'abord avoir été dérouté par lui et s'être perdu. Alors peut-être qu'il y a une chance que notre existence devienne un chemin de vie et non pas une autoroute. Une autoroute de convention, sociale, religieuse? Entrer dans la vie, frères et sœurs, c'est peut-être d'abord être passé par la mort et par le deuil, selon la grande symbolique chrétienne de notre baptême. Quoi qu'il en soit, nos deux disciples cheminent, même si cela nous semble à rebours, et puis ils parlent, même si cela peut sembler être des souvenirs, un peu acide, triste, déçu, plutôt que une mémoire vivante qui reconfigure leur vie, la réorienterait. Vous savez, la frontière entre les pas sans but et puis le chemin qui conduit vers un horizon, ou la frontière entre les mots de tristesse et puis les paroles de vie, elle n'est jamais bien claire en réalité dans nos existences. Et vous saurez que c'est souvent après coup que nous devinons, nous entreapercevons que le passage s'est fait, que la Pâque s'est faite, mais comme à notre insu presque. Le récit d'Emmaüs ne cache pas cette irruption d'un changement qui s'opère et que pourtant on ne perçoit pas d'emblée. De cette vie qui repart, qui chemine à nouveau, alors qu'elle pensait tout simplement s'être arrêtée. Car voici que la présence est au milieu d'eux. Ils ne la reconnaissent pas, pas encore. Comment mieux dire cette irruption qui passe d'abord inaperçue, qu'ils ne verront et ne reconnaîtront qu'après coup, frères et sœurs? Notre cœur n'était-il pas tout brûlant alors que la parole nous parlait, si je peux dire? Il faudra le signe matériel si humble, le pain, le geste du pain rompu, partagé, pour qu'alors leurs yeux s'ouvrent, les yeux de la foi, c'est-à-dire que consciemment, ils se rendent compte que oui, la présence était là, la parole parlait. C'est comme le déclic, ce geste, qui leur permet de se rendre compte que la parole, la présence, les nourrissait déjà, depuis des heures, mais ils ne s'en rendaient pas encore vraiment compte. Les voilà vivants à nouveau, frères et sœurs, nos deux disciples. C'est-à-dire, les voilà en chemin, mais cette fois, consciemment, ils le savent, ils retournent à Jérusalem. Et puis les voilà qui retrouvent la communauté des disciples parce que ils ont désormais une parole à proclamer, une espérance à partager et une communauté à retrouver. Combien de fois ai-je entendu cette phrase ou une autre semblable? Off, je suis venu à la messe avec des pieds de plomb, la vie triste, l'impression que tout ça se répétait, que ce n'était plus vraiment la vie. Et puis j'ai écouté, j'ai chanté. J'ai reçu le signe du pain, j'étais là au milieu des autres, et je suis ressorti, je ne sais pas trop comment, mais la tristesse était chassée, j'allais mieux, j'étais un peu plus vivante. Ah, sans savoir comment, au fond, tout cela s'était passé. Eh oui, le petit miracle de l'Eucharistie, si je peux dire les choses ainsi, celui des disciples d'Emmaüs avait eu lieu. Bon dimanche, frères et sœurs. Amen.